à thé, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons et vous retirez sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
d'inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, que vous soyez à l'écoute de Canal Sud à Toulouse, l'Écho des Carrigues à Montpellier ou Primitive à Reims, les Grégor vous saluent. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc ce soir, nous allons continuer de vous parler des inculpés de Tarnac. Et normalement, si ça fonctionne, nous devrions avoir au téléphone Michel. Michel, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je vous entends bien. Bonjour à tous.
Super, pour une fois ça marche. Donc Michel, tu es président du comité de soutien de Tarnac. Donc le comité de soutien qui s'est constitué à partir des habitants, des voisins et des habitants de la région. Et donc ce soir, si tu es avec nous, c'est pour nous parler un petit peu de ce soutien et puis aussi également de d'une notion que on met en avant depuis quelques jours, même depuis quelques semaines, qui est la notion de terrorisme, de terroriste, et donc un petit peu quelle réflexion vous avez produit là-dessus autour de cette notion-là de terrorisme, et puis des lois d'exception qui sont mises en place pour justement inculper ces jeunes de Tarnac. Alors peut-être on peut donner d'abord quelques éléments nouveaux sur cette affaire de Tarnac, même si le mot convient pas, j'en trouve pas d'autres là. Alors vendredi, je crois, il y a eu une nouvelle perquisition à Tarnac même, à la suite d'un article du Parisien, je crois, Camille, c'est ça ?
Non, du JDD.
Du JDD, pardon.
Journal du dimanche.
D'accord. Qu'est-ce qui racontait cet article ?
Il disait que, bizarrement, dans la perquisition d'une des pioles, il y avait toute une partie qui n'avait pas été fouillée, et que dedans, il y avait un carnet à spirale, dans lequel il y aurait eu des adresses et entre autres choses des notes d'achat de matériel dans lequel on trouvait l'achat de 85 kilos de ciment, de chaux, de fer à béton, voilà, parce qu'on revient toujours au fameux fer à béton, et de l'achat de poutrelles. Donc effectivement, du matériel quand on fait des travaux dans une maison, ok, voilà. Donc c'était ça, et donc qui disait que c'était bizarre que ce carnet se soit retrouvé là par hasard, après une perquisition, où on perquisitionne chez soi-disant des terroristes, où il n'y a pas de scellé de mise, et qu'on puisse retrouver, après passage des flics qui apparemment avaient tout bien retourné, des choses bien en évidence.
Voilà. Ouais, et donc du coup, ils y sont retournés en prenant le maire, un maire et un adjoint au maire à témoin, je crois, et puis donc ils ont repris quelques trucs. Voilà quoi, donc nouveau rebondissement quoi, avec les Pandores qui reviennent une deuxième fois s'ils ont oublié des trucs ou éventuellement rajouter d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi, il y a eu aussi une perquisition en Belgique dans le local d'un comité de soutien belge. Jean-No, tu as des infos là-dessus ?
Oui, oui, j'ai des infos là-dessus. Donc le comité de soutien à Bruxelles a été créé le 25 novembre. Et donc, le 27 novembre à 10h45, lors d'un contrôle routier, sous caméra, il y a un membre du comité, qui venait juste de se créer, est arrêté. On lui indique que sa voiture était repérée, était signalée dans le fichier Schengen. Bon. Alors il est arrêté, on lui saisit tous les documents dans le véhicule, un rétroprojecteur, etc. Bon, la personne est emmenée au commissariat rue du Marché au charbon et maintenue menottée à un banc sans pouvoir manger de 11h du matin à 20h. Il est interrogé par les inspecteurs du parquet fédéral qui l'interrogent au sujet du comité et cherchent à savoir qui est le responsable du comité de soutien. Ensuite, il est emmené dans une voiture de police, place du jeu de balle. Et c'est pas tout, à 20h, le même jour, 7 inspecteurs du parquet fédéral font irruption au domicile de Philippe, au-dessus d'une librairie, la librairie imaginaire, place du jeu de balle, à Bruxelles. Pendant 2 heures, donc en l'absence de Philippe, apparemment muni d'un mandat de perquisition, sur lequel étaient mentionnées apparemment les infractions de association de malfaiteurs et détérioration en réunion. Alors les policiers fouillent l'appartement, ils copient tous les fichiers de son ordinateur pour finalement emporter l'ordinateur, les revues politiques, etc., etc. Et c'est pas tout, le 28 novembre à 1h, donc la personne du comité est relâchée, mais la voiture, la liste d'adresses électroniques et tout le matériel du comité sont saisis. Voilà. Je pourrais compléter, mais je pense qu'on va, on verra éventuellement.
Ouais, enfin, dans tous les cas, il y a la volonté de mettre une pression, quoi, sur les soutiens, et puis de pas relâcher la pression sur cette affaire-là. Et puis, on va venir plus tard dans le développement
Je vais juste faire une précision, c'est que le mardi 2 décembre à 14h, il y a un rassemblement et une conférence de presse auront lieu devant la librairie L'Imaginaire. Donc pour commenter la situation et appeler à un soutien massif à Bruxelles. Voilà.
D'accord. Oui, bah ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. Il y a si même maintenant le soutien commence à être criminalisé, et donc va y avoir la poursuite de cette pression. Et d'ailleurs, ça c'était le troisième élément que je disais au début. Lors de l'audience de remise en liberté devant le JLD. Je ne sais plus la date, c'est pas grave.
C'était vendredi dernier.
Ouais. Il y a eu des incidents et l'arrestation d'une trentaine à cinquantaine de personnes.
Cinquante personnes. Une personne a été arrêtée au sein du rassemblement, a été extraite et arrêtée. C'est Gaël. Il a été relâché tard dans la soirée. Et 50 personnes ont été emmenées au poste de Clignancourt, je crois, pour un contrôle en fait. Voilà, c'est ça. Pour un fichage.
C'est ça, histoire de mettre les dossiers à jour d'établir des fiches et de voir un petit peu qui est derrière le soutien. Alors, Michel, excuse-nous, on a pris un peu de temps, mais je pense que c'était important de développer ça. Vous, ça va, vous n'avez pas de problème en tant que comité de soutien à Tarnac?
Pour l'instant, non, on ne peut pas dire qu'on a eu tellement des problèmes, à part cette nouvelle perquisition qui a eu lieu dernièrement, mais pour l'instant, non, on n'a pas eu de problème.
D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter assez rapidement, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire toute l'émission là-dessus, mais l'histoire de la constitution du comité de soutien?
En fait, le comité de soutien s'est constitué... je vais essayer de rappeler un peu en quelques mots rapidement. Donc, je vais aussi reposer un petit peu le cadre de l'opération policière, si ça vous embête pas.
Du tout.
Parce que si on va parler de l'antiterrorisme, il faut comprendre aussi dans quelle mesure et de quelle façon en fait toute cette affaire a été médiatisée. Donc on a le mardi 11 novembre à 6h du matin l'opération policière qui démarre. Et les policiers de la PJ de Limoges et... du parquet, la DCRI antiterroriste de Paris qui monte, etc. Et qui bloque le village à partir de 6h, 6h30 du matin et qui commence à faire leurs interpellations et à interpeller les gens et puis leurs perquisitions.
Hélicoptères et tout le team. Hein.
Et donc, ce qui est important vraiment de relever à ce moment-là, c'est que les fourgons de journalistes sont déjà présents à ce moment-là. des fourgons qui viennent de Paris. Donc il y a quand même 5 à 6 heures de route entre Paris et Tarnac. Et manifestement, il y avait aussi déjà des journalistes qui dormaient dans les hôtels du coin. Donc il y avait vraiment la volonté de la part de la police de vraiment médiatiser cette opération. Donc tous les journalistes étaient au courant, les élus locaux eux ne l'étaient pas du tout de ce qui allait se passer. Et donc les perquisitions, les interpellations se font vraiment sous les caméras. Ce qui est très important parce que pour eux, vu qu'il faut faire passer toute cette histoire au niveau antiterroriste et que par rapport aux faits qui sont reprochés aux gens qui ont été inculpés, les faits sont quand même relativement mineurs, hein, c'est-à-dire c'est guerre plus que du vandalisme, d'avoir débranché des trains, etc. Il faut qu'il y ait un montage médiatique très très fort pour qu'on puisse créer une figure particulière, la figure du terroriste. On ne la monte pas si simplement. Enfin, eux, ils n'ont pas eu tellement de difficultés à la monter apparemment, quoi. Et donc, y a une opération cagoulée très très importante, 150 policiers, des chiens renifleurs, la police scientifique, vraiment un truc très très impressionnant. Et donc, tôt dans la matinée, on a déjà des dépêches AFP qui tombent et qui annoncent les arrestations à 8h30 du matin, donc tout de suite. Et à 10h30, Michel Alliot-Marie prend la parole et donc là, lâche les premiers termes clés, ultra-gauche, mouvance anarcho-autonome, nihilisme, terroriste, violence, etc. Un certain nombre de termes qui vont servir de déclencheur. Et ces termes-là sont pas suffisants, il faut encore d'autres éléments. L'élément qui va être aussi déclencheur pour vraiment légitimer une démarche antiterroriste, ça va être de constituer un chef de bande, donc Julien Coupa, d'en faire une espèce de fou prêt à entraîner des gens derrière qui sont manifestement des crétins, qui se laissent endoctriner dans une ferme dans un petit village, où on dit dès le début que tout le monde vit en clandestinité, planqué, tapis dans l'ombre, comme avait indiqué le Figaro.
Vivant les uns sur les autres.
Ouais, vivant les uns sur les autres, etc. Et vraiment, dès le début, il y a une façon de créer, avec cet électrochoc médiatique, une mouvance qui, de fait, n'existe pas. Et donc la réaction des gens du village, donc pour venir par rapport au comité, c'est vraiment une incompréhension, un étonnement profond, quoi. Et pas tellement par rapport à la situation en ce qu'elle est, mais par rapport à la violence qui est déchaînée sur des gens dont tout le monde sait à l'intérieur du village qu'ils ne sont ni clandestins ni planqués, vu que les policiers sont quand même venus arrêter un épicier. Il y a un truc qui est complètement démesuré. Le village est bloqué. Il y a vraiment une pression qui est très très forte. Et au moment où le village se débloque, etc., les gens recommencent à parler. Il y a une colère immédiate qui commence à naître. D'autant plus que c'est une région quand même qui a été marquée par le maquis communiste. Mm-hmm. Et où, aux yeux de pas mal des anciens du village et tout ça, on avait affaire à une descente qui ressemblait fort à des descentes qu'ils avaient pu, eux, vivre à la fin ou même au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a eu un espèce de choc affectif au sein de la commune qui a été vraiment très très brutal. Et donc là-dessus, les gens qui étaient proches des inculpés sont trouvés dans une situation très ambiguë au début, c'est-à-dire nous, on ne savait pas du tout comment les gens du village allaient réagir. Moi, j'étais coincé, par exemple, dans le village d'à côté, sans pouvoir, en me disant, voilà, il va falloir partir de la région, les gens vont nous prendre pour des terroristes, c'est terminé, on pourra même pas expliquer comment nous, on perçoit la situation. Et en fait, il y a eu un soutien dès les premiers instants, presque. Un soutien vraiment massif des gens, quoi. Et c'est là-dessus qu'il y a eu la nécessité de discuter avec tous ces gens du village. Donc, il y a une première réunion qui est organisée donc 2 jours après les perquisitions et les interpellations. Et au cours de cette réunion, vraiment, qui a été extrêmement émouvante, où vraiment tous les gens du village, proches, moins proches des inculpés, ont pris la parole de manière vraiment très très favorable. Et c'est là-dessus qu'on s'est dit. Donc de toute façon, il y avait déjà l'idée, évidemment, de monter un comité de soutien, mais là, le comité de soutien a immédiatement été un comité de soutien vraiment communal, quoi, vraiment avec les gens du village. Et donc, sur l'initiative de l'ancien maire du village et d'un maire d'un village à côté, on a lancé une première conférence de presse le lendemain. Et là-dessus, on a tout de suite été rejoint par euh, par énormément de gens. Enfin, faut imaginer que le premier comité, la constitution du comité de soutien qu'on a organisé, il y avait plus de 200 personnes. Enfin, il y avait à peu près 200 personnes à la réunion pour un village de 350 habitants, ce qui fait quand même une bonne partie des gens, quoi. Bon, après, il y a des gens aussi un peu des environs qui sont venus. Ça c'est bien clair.
Ouais, de la région et du département. Par contre, là, du coup, pour cette conférence de presse et puis d'une manière générale, en tant que comité de soutien, vous avez j'allais dire, comparativement au déchaînement médiatique qu'il y a pu avoir lors de la première semaine, vous avez assez peu la parole, quoi, hein, quand même. On vous entend pas beaucoup sur les grandes ondes, quoi. Enfin, bon.
Bah, c'est très difficile parce que les deux premiers jours, les journalistes relayent, en fait, telles quelles les informations de la police, quoi. Mmh. Mais les informations de la police sont vraiment ciblées, vraiment de façon très, très violente. Et donc, les journalistes qui se pointent à l'intérieur du village, ils interviewent un peu les gens. Les gens leur disent mais non, c'est des gens chouettes, c'est un épicier qui était connu de tout le monde, qui se planquait pas du tout. C'est des bons gars, c'est des bons petits. Enfin, c'est un peu grosso modo ce qu'on entend. Et droit derrière, les médias enchaînent en disant, enfin, pour le coup, par exemple, il y avait un exemple qui était assez frappant. Il y avait le boulanger qui était interviewé qui disait. Moi, je les fais travailler, ils me font travailler, genre tout se passe très bien, il n'y a pas de raison, enfin, il y a une démesure, etc. Et au moment du montage, quand ils ont passé ça sur France 3, le commentaire du journaliste par-dessus, c'est ils ne se rendaient même pas compte qu'ils vivaient une double vie. Et donc, au début, vraiment, les médias, c'était vraiment, vraiment organisé autour de la notion de clandestinité, de planque, etc. Et c'est pour ça que ça a été aussi très important pour la police de donner très 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 rapidement des informations sur les personnes qui étaient inculpées, hein, ce qui est complètement illégal, c'est-à-dire on peut pas parler des gens en nom personnel.
Tu parles de la fuite. De la fuite d'un rapport qui a tourné sur Internet, c'est ça, non? C'est ça.
Non, je parle en règle générale. Par exemple, tout ce qui a été dit sur Julien Coupa, le fait de le décrire. Comme un jeune bourgeois plein de thunes vivant dans un loft, enfin qui sont vraiment toutes des informations complètement calomnieuses, quoi. Mais qu'on vraiment servi à créer une ambiance particulière. Michèle Alliot-Marie, elle disait par exemple là-dessus, c'était un interview qu'elle avait donné sur Radio J. Elle disait oui, on comprend d'autant mieux que ces gens bardés de diplômes sont d'une intelligence supérieure, qu'ils ont pu très facilement leurrer, berner et instrumentaliser. Les gens d'une commune d'une commune rurale, grosso modo,
paysans,
les ruraux,
quoi.
C'est vraiment des indécis qui se laissent berner par des gens plus intelligents qu'eux qui viennent de la ville. Donc forcément, nous, on a relativement peu la parole là-dedans, c'est-à-dire le déferlement médiatique est tellement violent que c'est très très difficile, mais même pour nous c'était difficile de dire quoi que ce soit, parce que chaque chose qu'on pouvait dire pouvait, dans les premiers jours, pouvait être retournée contre nous de façon extrêmement violente, quoi.
Oui, ben effectivement, parce que ben on va y revenir tout au cours de cette émission. Mais ce qui est important de créer, c'est comment dire une image, une figure. Et cette figure, c'est la figure, on va dire, aurée par excellence, c'est la figure du terroriste, quoi. Donc c'est vachement bien terrorisme, parce que c'est un concept, c'est un usage dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, et qui est vraiment aujourd'hui dans l'époque médiatique et dans l'époque dans laquelle on vit, c'est vraiment, on va dire, le mal par excellence. Alors moi, pour préparer cette émission, je me suis interrogé un petit peu sur l'origine de ce mot-là, et puis j'ai essayé de regarder, voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir derrière ce terme-là. Et en fait, c'est assez marrant, parce que l'étymologie du mot terrorisme, elle vient d'une époque, d'une période, pendant la Révolution française, qu'on a appelée la Terreur. L'époque où on a guillotiné à tour de bras et on a mis des lois d'exception pour pouvoir imposer le régime de la Révolution française. Donc c'est assez paradoxal de voir qu'aujourd'hui, une notion comme terroriste, donc qui signifiait auparavant les partisans de ce régime de la terreur, donc une notion qui était... qui émanait de l'État et du gouvernement, d'un régime politique, désignait des gens qui sont censés être contre ce régime politique, ou en tous les cas contre un régime politique, contre l'État, etc., etc. Et donc j'ai essayé aussi de voir à quoi ça correspondait en termes de droit, quoi, le terrorisme et le terroriste. Et en fait, on s'aperçoit que ben, y a aucune définition légale internationale de ce terme et de cette notion de droit. Et que en fait, eh ben, en termes de droit, le terrorisme et terroriste, c'est des trucs qui sont super subjectifs, quoi. Au cours de l'histoire, on le voit bien. Un jour on est terroriste, un autre jour on est résistant. Donc toutes ces notions, elles sont vachement malléables, elles sont vachement subjectives, et en fait elles servent ceux qui les utilisent. Et ainsi on voit jamais personne ne se réclamer comme terroriste. On voit jamais, c'est très rare de voir des combattants se définir comme des terroristes, mais on verra toujours chaque gouvernement ou chaque État définir ses adversaires ou définir l'autre comme un terroriste, quoi.
Mais par rapport à ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lois, elles se construisent évidemment contextuellement à une situation. Et en l'occurrence, ces lois terroristes,
Anti-terroriste. Ou peut-être, oui, elles sont terroristes, oui, tu peux le dire.
Enfin, peu importe. Ces lois antiterroristes, elles sont mises en place en France, petit à petit, à travers Vigipirate et ensuite Vigipirate renforcé, déjà à partir de 95, quoi. Même un peu avant, selon certains spécialistes de la loi. Et en fait, il y a au fur et à mesure d'événements qui vont troubler la nation, on va se servir de ces événements pour renforcer ces lois. Et donc, effectivement, là, on comprend bien comment le 11 septembre, ça a été un moment complètement charnière pour toutes ces lois, qui ont permis, donc pas seulement en France, mais dans l'Europe entière, qui ont suivi le mouvement des États-Unis avec le vote massif du Patriot Act. Mmh. Et donc, en France en particulier, il y a des paquets de lois qui vont passer après le 11 septembre, qui vont être votés vraiment autant par la gauche que par la droite, qui vont permettre vraiment une législation d'exception.
Ouais, c'est une autorité intérieure,
mais qui existait vraiment auparavant, quoi.
Ouais. Oui, moi, je voulais dire justement, tu citais les lois qui sont tombées en cascade depuis le 11 novembre, et il me semble que les premiers endroits où ça s'est appliqué très fortement, c'est en Espagne et au Pays Basque notamment, avec Garzón et appuyé régulièrement par la juge Levert, ont criminalisé des mouvements à la fois au sud, au Pays Basque sud, et aussi au nord, donc vers Bayonne, vers tout le Pays Basque nord, les mouvements de jeunesse. Récemment, on avait fait une émission de radio avec un mouvement qui...
Maison d'édition Gatuzain.
La maison d'édition Gatuzain, ouais, qui avait été carrément paralysée parce qu'on lui avait gelé les comptes et donc complètement paralysée. Et avec cette remarquable mise en scène avec les super Rambo, comme tu le disais au tout début, ça c'est très important. Comment se fait-il qu'il y ait une orchestration médiatique d'une telle ampleur? Pour moi, c'est ça qui, enfin, c'est vraiment choquant, parce que c'est vraiment, en fait, on assiste à un état. On assiste à une forme de totalitarisme qui en fait positionne ces garnisons, ces escouades, c'est-à-dire il y a des escadrons qui interviennent, il y a les médias, c'est un peu comme une situation de guerre, en fait. Ça fait penser à des situations de guerre où, en fait, il y a les médias qui sont là pour donner le quitus à l'opération, hein, comme tu le disais. Les médias ont complètement relayé dans un premier temps, et en fait, en même temps, ils sont juges, parce qu'ils donnent, il n'y a pas d'instruction à charge et à décharge, évidemment, bien évidemment, dès le début, puisque dès le début, les uns et les autres sont désignés comme les cibles attendues. Ça y est, elles tombent dans le panier, et le portrait est fait, et donc, en fait, c'est sans appel. Alors, je voudrais rappeler un autre exemple, c'est une affaire qui s'était déroulée, il y en a tellement, en fait. Il y a eu l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui était un sacré montage. Quand on voit la carrière de ce capitaine Baril, qui est devenu un espèce de mercenaire quelque part installé, qui a été condamné récemment. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a eu l'affaire de Quévert en Bretagne, où en fait des gens ont passé 4 années en prison sans qu'il y ait des éléments tangibles de leur culpabilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut batailler pour que tous les chefs d'inculpation soient retirés et que les gens soient libérés le plus vite possible, parce que ça fait déjà une semaine et c'est une semaine de trop.
Mais il y a quelque chose par rapport aux lois françaises qu'il faut bien voir, c'est que les lois françaises, par exemple le terme d'association de malfaiteurs, c'est vraiment un truc inédit en France, enfin inédit en Europe, et il n'y a que la France qui possède, d'ailleurs on a parlé de la Belgique, au niveau des dernières perquisitions, il y avait l'association de malfaiteurs qui paraissait dans les chefs d'inculpation des gens qui ont été perquisitionnés, mais apparemment en Belgique déjà le sens est un peu différent. Faut quand même savoir que l'Union européenne a condamné à plusieurs reprises l'État français pour l'utilisation de ce concept dans le droit, quoi.
L'utilisation abusive.
Parce qu'en fait, il sert quelque chose de très important, c'est-à-dire il sert à superposer deux termes juridiques qui sont habituellement vraiment distincts, c'est celui de suspect et de coupable. C'est-à-dire dans le cadre d'une association de malfaiteurs, quelqu'un qui est seulement suspect dans un contexte est d'emblée coupable. Et en fait, c'est pour ça que la présomption d'innocence a tout de suite été cassée dans cette histoire. C'est parce qu'elle répond aussi à une demande de la loi. C'est-à-dire la loi dit, ah non, ils sont suspects, donc c'est suffisant pour pouvoir les condamner. Donc pas seulement pour pouvoir les inculper, mais pour pouvoir les condamner. Et il y a beaucoup de cas, j'ai pas d'exemple précis à rappeler, mais il y a beaucoup de cas où il y a simplement des effets de suspicion qui se sont transformés en culpabilité pour des gens qui ont fait de la tôle, alors que les dossiers étaient complètement vides. On est vraiment dans cette situation-là.
D'accord.
Et c'est en ça que cette législation, vraiment, on peut dire que c'est une législation d'exception. D'ailleurs, il l'exprime même au sein du gouvernement comme ça. Et le syndicat de la magistrature, donc le syndicat des juges, c'est à plusieurs reprises élevé, enfin, essayer d'intervenir contre ces lois-là, entre autres, par exemple, dans une missive, dans un communiqué de presse qu'ils avaient fait en juin, qu'ils avaient intitulé « L'APJ voit des terroristes partout ». Et ils expliquent de façon très technique comment, dans le cadre de la législation d'exception terroriste, on peut faire pression sur le juge, en l'occurrence sur le juge des libertés particulièrement, pour qu'il n'y ait pas de remise en liberté des gens, parce que ça pourrait remettre en cause certains éléments de l'enquête. Alors, dans la situation, par exemple, qui nous intéresse, celle du 11 novembre, les gens qui ont été arrêtés ont, par exemple, tous des garanties de représentation, ont tous un casier vierge, et du point de vue de la loi traditionnelle,
c'est remis
les gens
en liberté.
Ne peuvent pas être retenus en détention préventive.
Absolument.
Mais dans le cas de la législation terroriste, la DCRI fait une demande, qui est toujours acceptée par le juge, de les garder en prison. Et donc c'est ça, c'est la contre déjà que les avocats sont en train d'essayer de se battre pour essayer de faire en sorte que les gens sortent.
Ben oui, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer parfaitement, quoi. Hein, c'est que cette figure du terrorisme, elle a deux avantages. Un avantage, on va dire, symbolique, c'est-à-dire qu'elle disqualifie l'adversaire, elle disqualifie et elle détruit tout ce que pourra dire la personne puisque c'est un terroriste. Et puis elle a des avantages techniques, c'est qu'elle permet l'application de lois d'exception. Donc on voit bien que effectivement, à partir du moment où le pouvoir, quel qu'il soit, hein, bien sûr, mais qualifie celui qui l'arrête de terroriste, ça lui permet de s'asseoir et d'en faire ce qu'il veut avec, quoi. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça sert tout ça, quoi, en fait, pourquoi ?
Ben, on peut déjà donner quelques éléments par rapport à ça, c'est-à-dire, pour reprendre les termes d'Éric Hazan, qui est l'éditeur de L'Insurrection qui vient, en parlant des législations antiterroristes, il dit un truc très important. Il dit que l'antiterrorisme n'a rien à voir avec le terrorisme. L'antiterrorisme légitimé par des actes derrière souvent terroristes ou par des actes qui ont choqué une nation à un moment ou à un autre, l'antiterrorisme c'est un mode de gouvernance. Avant d'être une forme de législation qui s'attaque au terrorisme, c'est avant tout un mode de gouvernance. C'est une façon de gouverner, c'est une façon d'être présent militairement sur le terrain de la nation, avant d'être une législation qui s'occupe de réguler, de savoir ce que c'est ou non que le terrorisme, etc. Vu que de toute façon, dans le cadre de ces législations, on peut faire tout et n'importe quoi, il suffit que le gouvernement ait une idée en tête, particulière, contre un mouvement, contre des formes de revendications particulières, il peut s'attaquer à ces revendications avec son outil qui est la législation antiterroriste. Mmh. Et ça, c'est vraiment flagrant pour la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire à quoi sert, pourquoi l'antiterrorisme agit de cette façon-là. On voit bien que dans la situation de crise, d'abord financière et ensuite économique, qu'on est en train de vivre, les gouvernements, les États se retrouvent dans une situation où ils sont en train de craindre en fait un certain nombre de mouvements sociaux qui vont aller en se radicalisant.
Tout à fait.
Donc il faut intervenir le plus vite possible à la base pour donner un exemple, pour donner un signal. Alors après, maintenant la question c'est de savoir à qui est destiné ce signal. Certains disent qu'il est destiné aux banlieues. Certains disent qu'il est destiné au mouvement de contestation altermondialiste.
Je crois qu'il est destiné à l'ensemble de la population, hein, c'est-à-dire à tous ceux qui sont touchés par la crise économique et sociale qui se passe actuellement.
Ouais, certainement, ouais, ça c'est clair.
C'est-à-dire qu'il y a des règles, voilà, aujourd'hui, on a, bon, alors, tu disais encore, pour avoir une politique antiterroriste, encore faut-il trouver le terroriste, créer le terroriste, donc là on en a créé un, ça fait quand même, on en a déjà parlé lors de la dernière émission, mais ça fait depuis juin 2007 qu'on nous surine avec ce baratin sur les anarchos autonomes d'ultra-gauche, là, il y avait eu la publication d'un rapport DRG, donc on a préparé aussi l'opinion à ça, et puis donc ça permet donc d'avoir... un ennemi symbolique et puis ça permet aussi d'avoir des instruments légaux, législatifs quoi, d'instruments de police le signal est destiné je crois à l'ensemble de la population, les travailleurs, les non-travailleurs, les gens qui sont dans les banlieues, les jeunes, d'ailleurs on peut mettre ça en relation avec le projet le rapport là, vous m'aidez, le rapport sur la possibilité de responsabilité pénale à partir de 12 ans.
Ouais. Ouais, 12 ans et je dirais même que dans un congrès qui s'est tenu à Paris la semaine dernière, il y a toute une équipe qui travaillait sur ce dossier qui envisageait même de le porter à 10 ans.
D'accord. Et aussi également tout le fichage, les fichages des gosses, les fichages des lycéens,
les fichages bas élèves,
etc., etc. Quoi. Donc on voit bien que
on peut aussi rappeler la criminalisation dont fait l'objet le DAL en ce moment. Aussi.
Ouais. Bah oui. Ben nous on avait réfléchi un peu à tout ça puis. Toute proportion gardée et puis dans la région en Lorraine hein, c'est ça à Longwy on avait vécu une situation dans une usine d'EU. Je sais pas si tu te rappelles de ça, on a oublié déjà parce que il y a tellement de nouvelles qui arrivent qu'on revient pas souvent là-dessus. Et il y avait eu un mouvement social assez fort puisque l'usine qui avait été subventionnée à grands coups de fric fermait. Et donc il y avait eu un mouvement de grève assez fort et les ouvriers occupaient leurs usines et gardaient comme trésor de guerre pour pouvoir influer sur les négociations. C'était les tubes cathodiques, c'est ça?
Ouais, téléviseurs.
Ouais, les télévisions, pardon. Et d'un seul coup, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais le stock a cramé et ils ont chopé un ouvrier qui était là, qui avait en plus le tort d'être étranger et barbu.
Un ouvrier qui était impliqué syndicalement.
Ouais, d'avoir une grande gueule
Kamel,
surtout. Oui.
Kamel Belkadi.
Ouais, et donc camorflé et qui a été, habillé, paré des vertus de... Alors, pas du terroriste à ce moment-là, mais c'était pas loin, quoi.
Enfin, il a été blanchi en appel quand même, mais entre-temps, il avait fait un mois de prison. Hein.
Et là, donc, il y avait clairement la volonté de criminalisation du mouvement social. Ouais. Quoi. Et ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, mais dont on a l'impression qu'elles sont de plus en plus rapprochées. Et tu parlais tout à l'heure de l'antiterrorisme comme mode de gouvernement. Moi, je me souviens que deux jours après l'interpellation, donc ça devait être le 13 ou le 14 novembre, on nous en a remis une couche avec l'interpellation du chef militaire d'ETA, quoi. Régulièrement, on sort... Il y a des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, 4, 5, il y a des branches militaires, tout ce que tu veux. Mais régulièrement, d'ailleurs, il était dangereux. Hein.
c'est vraiment très important pour le pouvoir en place, de pouvoir, dans une situation où il est de plus en plus désavoué par ses politiques économiques et sociales, de se créer un ennemi intérieur, c'est-à-dire de vraiment pouvoir... De pouvoir créer un contexte, entre guillemets, hein, je mets un peu un bémol, de guerre civile à l'intérieur de sa propre nation pour pouvoir se doter de ces législations, parce qu'en fait, ces législations, il les a déjà, mais il peut pas, on voit bien, s'en servir n'importe comment. Et, mais il cherche à pousser la situation, à pouvoir l'utiliser de façon la plus large possible. On, par exemple, dans l'affaire qui vient d'arriver, on voit bien que ce qui peut suivre derrière une affaire comme ça, c'est par exemple la criminalisation de certaines grèves, où on peut estimer que les gens qui se réunissent dans le cadre de grève pour faire un piquet de grève ou pour bloquer un stock ou pour faire je ne sais quoi avec, ces gens-là peuvent tomber sous le coup de chef d'inculpation d'associations de malfaiteurs et se retrouver dans une situation où ils deviennent tous des terroristes.
Oui, alors justement, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, peut-être dans un premier temps, j'aimerais bien, si tu as des éléments sur la plaidoirie d'Irène Terrel, donc une des avocates, pour demander la remise en liberté. Est-ce que vous avez eu des éléments là-dessus?
Ben, en fait, on a assez peu d'éléments. On sait qu'elle a fait appel, qu'ils sont passés devant le juge vendredi,
oui.
Que le juge va donner une réponse mardi. En règle générale, dans ce genre de circonstances, nous, on se fait pas trop d'illusions, c'est-à-dire que les premiers appels sont toujours systématiquement repoussés. Mais on garde quand même espoir. Enfin, étant donné que c'est toujours plus choquant en fait cette situation. Et il faut bien dire aussi ce qui est, c'est-à-dire que les médias ont quand même petit à petit commencé à se retourner les uns après les autres. Bon, il y en a qui se retournent jamais. Hein, TF1 et Le Figaro. On fait preuve d'une docilité face au gouvernement toujours vraiment plus admirable. Mais là, les médias commencent vraiment à presser. Il y a beaucoup d'élus qui commencent à mettre leur nez dans cette affaire, à poser des questions dans un premier temps et dans un second temps à commencer à s'opposer au déroulement de cette histoire. Et donc par rapport à ce que dit Irène Terrel, ce qui est sûr, c'est que c'est un procès politique. Et c'est-à-dire que ce qui veut dire procès politique, ça va forcément avec l'évolution de l'opinion autour de ce procès. Et donc, on n'est pas du tout dans un cas d'une justice qui est censée être partiale et qui va impartiale. Elle est plutôt partiale là et qui va agir en tant que telle, quoi. C'est vraiment en fonction de la mobilisation de l'opinion publique que va être déterminé ou pas si des gens vont pouvoir sortir, si les chefs d'inculpation vont ou pas être retirés. Nous, de toute façon, avec le comité de soutien, pour nous, l'enjeu principal, c'est que les chefs d'inculpation dits terroristes tombent. Et de ce qu'on sait pour l'instant et de ce qu'on a pu discuter avec elle, je pense que ça va être la ligne d'Irène Terrel aussi.
Oui, parce que effectivement, ce qui risque de se passer là, c'est si on n'arrive pas à se saisir de cette mobilisation pour pouvoir justement poser ces questions-là, c'est qu'on va encore avoir, même si quelque part, même si ça se dégonfle et même si le pouvoir et la justice sont désavoués et qu'il y a remise en liberté, on nous dira que ça a été un excès, etc., etc. Et on sera passé à côté du principal, à mon avis, qui est justement d'étudier toute cette armada, tout ce qui a été déployé, tout ce qui a été mis en œuvre pour créer cette figure du terroriste. Quoi.
Mais en fait, il y a, je sais pas si vous avez connaissance de Paolo Persichetti qui est incarcéré en Italie depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui avait été arrêté dans la fac où il travaillait à Paris, alors qu'il était complètement libre. Et en fait, il fait toute une analyse concernant l'implantation du TGV de la ligne Lyon-Turin, qui est en cours de programmation et même bien avancée, puisqu'il y a un mouvement de résistance très très fort en Italie, dans le Val de Susa. D'ailleurs, il y a une manifestation le 6 décembre prochain. Et en fait, ce TGV serait relié à un axe beaucoup plus vaste qui relierait le Portugal. Je ne sais plus le nom de la ville, c'est peut-être Valladolid.
Valladolid.
Et en fait, cet axe passerait vraisemblablement dans le Massif central. Alors, tu confirmeras ou pas si tu as des informations, et que ce serait en quelque sorte une manière de faire un coup de semonce pour toute mouvance qui serait susceptible de combattre ce projet considérablement énergivore et qui va dépenser des sommes astronomiques et surtout qui est remise en cause énormément par la population depuis plus de 10 ans quoi. Alors là, donc Persichetti il explique que il y a une, je sais pas, entre 8 et 10 ans, il y a eu des rafles importantes dans les milieux anarchistes, par contre, avec une construction identique à celle qui est menée aujourd'hui, qui a été menée aujourd'hui à Tarnac. Donc c'est une hypothèse, hein, faut prendre ça avec des pincettes, évidemment, puis faut prendre le temps de vérifier. Mais je sais pas, voilà, c'était une idée qui me paraissait.
Je pense que effectivement, dans le processus général qui est en cours, c'est législation d'exception et ce sur quoi elle s'applique. Pour l'instant, ce qu'on peut en voir, elle s'applique guère contre des mouvements terroristes vraiment extrêmement violents, mais contre la contestation en règle. En règle générale et enfin toute forme de contestation et on peut penser surtout dans une période de crise et par exemple où on voit bien que le chômage va se mettre à exploser, qu'il va y avoir des difficultés sociales toujours plus grandes, on peut assez facilement imaginer que pour l'instant le chemin qui est pris c'est pas seulement celui des législations d'exception mais c'est celui de l'état d'exception. Et moi je vais pas jusqu'à dire comme certaines personnes le disent et pas seulement dans les milieux de gauche, qu'on est déjà dans un état d'exception, c'est sûr que le mouvement...
Disons qu'on est dans un... C'est très net. Je crois qu'il y a eu un test très très fort, ça a été l'état d'urgence dans les banlieues en 2005, c'est-à-dire que à ce moment-là, on va dire, quelque part, c'est le gouvernement Villepin a sorti une arme extrêmement puissante, quelque chose de fort symboliquement, et vraiment en plus quelque chose qui était attaché à la guerre d'Algérie, à cette période-là, où il y avait vraiment de la tension dans la société, et il y a eu assez peu de réactions sur le terrain, quoi. Donc cette exception, comme tu dis, elle a quand même tendance à devenir, peut-être pas la règle, mais en tous les cas, un moyen de gouvernement qui est de plus en plus récurrent, quoi. Quelque chose qui s'est banalisé, quelque chose qui est normal. C'est normal, il y a des gens qui menacent notre société, hein, et c'est normal d'être violent avec eux. D'ailleurs, c'est bien connu, en démocratie, la violence, c'est que l'État qui a le droit de la pratiquer. Et donc c'est normal d'avoir un traitement exceptionnel de ces gens-là, quoi. C'est pas la peine d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a aucune justification qui est, on va dire, recevable. Voilà, c'est comme ça et pas autrement.
Ouais, effectivement, je pense que l'objet de l'État dans cette série d'affaires, c'est de montrer qu'il est présent militairement et de le montrer toujours plus afin effectivement de banaliser sa présence militaire sur le terrain politique, quoi.
Alors ça, c'est la dernière analyse, c'est quand on analyse tout ça et quand on le remet en perspective et qu'on le met en liaison. Mais c'est vrai que de toute façon, dans les discussions qu'on peut avoir avec les gens, d'autant plus, j'allais dire, ironie du sort et actualité tragique, quelques jours après Tarnac, il y avait les actes en Inde. Où là, on a parlé de terrorisme et de terroristes, et ouais. Peut-être que les gens ont fait une comparaison, quoi, en disant tiens, visiblement, c'est pas la même chose, quoi, ou alors ça n'a vraiment aucune commune mesure. Et je pense que réellement, les gens voient bien la difficulté qu'ils ont au quotidien. Enfin, quand tu discutes avec eux, quoi, hein, ils voient très bien que c'est du barouf, quoi. Après, est-ce qu'ils vont se saisir de ça pour pouvoir justement essayer de comprendre tout ce qui passe, pourquoi pas, quoi. Enfin, c'est l'objet, à mon avis, c'est le boulot des comités de soutien, je pense.
Ben, je pense que la meilleure démonstration, elle a été faite à Tarnac, avec le comité de soutien, à Limoges, et je pense que tu dois avoir d'autres comités en tête que nous, on n'a pas forcément.
Oh, ben maintenant, il y a Bruxelles, maintenant tout le monde le sait.
Ouais.
il y a Toulouse, il y a Marseille, il y a Paris. Paris, c'est moins clair pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contact très précis.
À Paris.
Mais il y a Rouen, il y a
Tulle.
Il y a encore d'autres villes. Et Nancy. Du coup, moi, j'invite vos auditeurs à aller sur notre site, qui recense aussi, au fur et à mesure où ils sont en train de se créer, tous ces comités de soutien. Je tiens juste aussi à dire que les comités de soutien, ils ne sont pas seulement français. C'est-à-dire qu'il y en a un à New York qui s'est créé. Il y en a un à Genève. Et puis, il y a déjà eu une manifestation de soutien à Moscou. Et Et je pense qu'on voit bien dans le caractère aussi international de ce soutien qu'il y a une vigilance un peu commune et que tout le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Europe de l'Est, se retrouve vraiment dans la même situation. Enfin, l'évolution, elle est quand même la même pour tout le monde, quoi. Ouais.
Alors donc, pour conclure, on va inviter tous les Rémois et les Rémoises qui voudraient discuter de tout ce qu'on a dit là et puis qui voudraient simplement se renseigner sur cette affaire. Que bon, pour le moment, il n'y a pas un comité de soutien, c'est très informel, mais je pense que ça devrait se faire incessamment sous peu. Et on les invite à venir mercredi à notre local au 51 rue Landouzi à partir, on va dire, de 17h, 17h30. Hein, c'est pas grave, on n'est pas une demi-heure prêt pour justement voir qu'est-ce que nous on pourrait faire à Reims pour appuyer la dynamique des comités de soutien, aider les gens de Tarnac, récolter des trucs, essayer de réfléchir ensemble donc à cette situation et puis apporter une solidarité concrète avec les inculpés puis avec les gens à Tarnac. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Michel ?
Non, à part l'adresse du site soutien11novembre.org, 11 en chiffres. Et de toute façon, toutes les communications officielles qu'on a déjà faites sont dessus. Il y a une communication aussi des parents des inculpés, une lettre ouverte qui est aussi qu'on peut lire sur le site. Et puis il y a le lien avec tous les autres comités. Il y a une analyse juridique un peu plus approfondie que celle qu'on vient d'avoir, qui est aussi qu'on peut lire. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Donc,
il y a du matériel, quoi. Ouais.
11 novembre.org.
Il y a des outils. Ok, très bien. Alors ne quitte pas, je vais te reprendre en antenne. Et puis nous, on fait une petite pause musicale, puis on passe complètement à autre chose.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Et je voulais maintenant annoncer une manifestation importante qui va se dérouler le 6 décembre prochain en Italie, dans le Val Susa. Alors le Val Susa, c'est un endroit où il y a un projet colossal de tunnel et d'axe ferroviaire TGV, où il y a une population qui est en lutte, grande partie de la population qui est en lutte contre ce projet pharaonique, avec un tunnel de 52 km qui est prévu dans des zones géologiques uranifères et des zones géologiques qui contiennent de l'amiante, par exemple. Il y a quelques années, Berlusconi avait envoyé quelques 5000 policiers contre la population et les opposants au projet, qui ont finalement, au bout de plusieurs semaines, réussi à les faire partir de la proximité du chantier. Donc c'était une première victoire. Aujourd'hui, là, donc le 6 décembre, il y aura un important cortège rouge et noir, puisqu'il y a la Fédération anarchiste torinaise, la FAI, qui appelle au rassemblement et qui dénonce ce projet absolument inutile, désastreux et considérablement onéreux, puisque je crois que la Commission européenne qui a falsifié complètement les chiffres, les données concernant notamment les projets de croissance, et elle annonce un projet de croissance de 3% par an concernant les transports, alors qu'en fait actuellement celle-ci plafonne au maximum à 0,5%. Alors donc des chiffres complètement tronqués par rapport aux prévisions de fret et des chiffres de 700 millions d'euros pour cette construction qui ne sert à rien et qui vraiment exacerbe la population qui est déjà fortement touchée par des implantations autoroutières, des axes ferroviaires, des énormes ponts, etc. Et il faut bien le dire, une complaisance du Parti Vert hein, qui est aujourd'hui dans le gouvernement, en tout cas qui participe à la concertation, à cette nouvelle arme de gouvernance, et qui essaye de retourner les uns après les autres les élus, quoi. Donc je ne vais pas m'étendre davantage. J'espère qu'on y reviendra beaucoup plus longuement après le déroulement de cette manifestation.
Voilà. Oui, je pense que je vais conclure, mais il reste plus très très longtemps, donc je vais essayer de faire vite. Donc moi j'ai deux petites choses à signaler, c'est plutôt de l'actualité rémoise. Donc tout d'abord se tiendra cette semaine, enfin aura lieu tout du moins, le festival antifasciste organisé par Ralph Ron, qui maintenant dorénavant s'appellera le CLA, donc c'est le comité de lutte antifasciste, et donc ça commence jeudi avec une projection à la fac de lettres de Jean Dernaud de Monica Treut, et qui sera suivie d'une intervention d'un des militants d'Homozygote. Donc ça c'est pour le jeudi. Vendredi, au sein du local de l'association Le Cri du Peuple, qui, je tiens à le rappeler, est une association autogestionnaire et libertaire et non marxiste, comme certains candidats aux élections législatives osent le dire dans les journaux locaux. Donc il y aura la projection à partir de 20h du film Antifa, chasseur de skin, avec un débat à la suite qui sera donc organisé avec un des fondateurs des Red Warriors, qui était une de ces bandes de jeunes qui ont décidé de faire changer.
Encore vivant ?
Oui. Et donc il s'agit de Julien Terzic. Et on terminera donc samedi avec un concert antifasciste au centre socioculturel du Crous. Donc on aura à l'affiche la Brigada Flores Magón, les Tue la Mort et les Têtes d'Obus. Donc trois groupes parisiens avec stand militants et tout ça pour un prix de très très modique de 5€. Et dernière petite annonce avant qu'on ait terminé, en reparlant donc du Cri du Peuple, on participe à une souscription qui a lieu tous les ans depuis un certain nombre d'années et qui est organisée par l'association Échange Solidaire qui se trouve à Paris. Et l'association Le Cri du Peuple a décidé d'y participer. Ça consiste en quoi ? C'est l'achat, enfin le préachat de café qui vient du Chiapas, région en lutte depuis maintenant 14 ans. Donc c'est des paquets de café de 250 grammes qui sont en vente au prix de 3,20€. Et donc l'association fait une précommande jusqu'au 15 décembre. Donc vous venez à l'association et la livraison par contre a lieu au mois de juin. Donc parce qu'il s'agit de payer une partie déjà de la récolte.
Vaut mieux avoir déjà du café d'avance, quoi.
Voilà, faut avoir un petit peu de café d'avance, mais bon, il est tellement bon celui-ci que franchement ça vaut le coup même d'en avoir un petit peu chez soi.
On passe te voir donc le Cri du Peuple, c'est rue Jean Jaurès.
Voilà, et puis pour ceux qui n'auraient pas le temps, sinon on va nous terminer l'année avec une dernière rencontre le vendredi 12 à partir de 20h30 avec Roland Hainaut et avec un sujet vachement d'actualité puisque ça sera un débat sur les prisons et l'univers carcéral.
Allez, à la semaine
c'est
prochaine.
C'est quand ça, Damien ?
Ça, c'est le vendredi 12 à partir de 20h30.
D'accord. Bah, on pourra en reparler éventuellement.
Oui, on en reparlera, oui. Sans souci.
Les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal terribles. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. C'est une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme.
Allez, que vous soyez à l'écoute de Canal Sud à Toulouse, l'écho des Garrigues à Montpellier ou Radio Primitive, vous venez d'écouter Les Grégores, une parole anarchiste communiste. Si vous voulez nous réécouter cette émission, vous allez sur le site http://oclibertaire.free.